Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous encore ce soir. Bonsoir Nathalie et bonsoir Théo. Voilà. Alors aujourd'hui, on a voulu faire un spécial fête des pères. Parce qu'il ne faut pas les oublier, les papas. Donc déjà, j'embrasse le mien de papa, déjà. Après les autres, à vous de le faire, hein, d'embrasser les uns et les autres. Il faut savoir que c'est dimanche prochain, la fête des pères, donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait vos colliers de pâtes, n'oubliez pas de le faire. Voilà, donc on va commencer. Alors, j'ai cherché ce qui pouvait plaire au papa. Donc, plutôt de faire des œufs mayonnaise, parce qu'on sait que les papas, ils aiment bien les œufs mayonnaise, en attendant le mien. J'ai un peu changé, on a fait plutôt des verrines œufs mimosa et thon. Voilà, donc pour ça, on aura besoin d'une cuillère à café de moutarde, on aura besoin de poivre, de sel, bien évidemment, de persil, d'huile de tournesol, 9 œufs, c'est pas facile à dire, hein, 9 œufs, et une boîte de thon 190 grammes et 2 tomates pour la déco. Pour les ustensiles, on aura besoin d'une casserole, d'un saladier, d'un fouet ou un batteur électrique, d'une cuillère en bois, et puis de 4 à 6 verrines. Donc ça, tout dépend de la préparation et tout dépend de la grosseur de vos verrines. C'est pour ça que je mets toujours 4 à 6. Ensuite, pour le filet mignon, on avait fait pendant il me semble bien qu'on avait fait déjà un filet mignon. Il me semble que c'était à la Saint-Valentin. Oui. Et là, cette fois-ci, il va être en croûte avec les tagliatelles de légumes. Donc, vous allez voir que ce n'est pas du tout des tagliatelles avec des féculents, mais ça va être des tagliatelles de légumes. On va faire, pour ça, on aura besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, 3 cuillères à café de moutarde, 4 gousses d'ail, un bouquet de persil, poivre, sel, un filet mignon de porc d'environ 700 grammes, d'une pâte feuilletée, de 2 cuillères à café de crème épaisse. Là, j'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil. Et puis, un jaune d'œuf, 2 courgettes, 2 carottes. Alors, des moyennes, hein, ça ne sert à rien qu'elles soient grosses parce que vous allez voir, on va faire beaucoup, beaucoup de tagliatelles avec 2 moyennes. Et puis, une gousse d'ail et puis du persil. Côté ustensile, on va avoir besoin d'une poêle, d'un saladier, d'un bol, d'une assiette, d'un mixeur, d'une marise, donc je vous rappelle que c'est d'une spatule avec le bout plastique, c'est mieux, d'un économe, d'une fourchette, d'un plat à gratin, d'une feuille de papier alu, d'une cuillère à soupe et d'une plaque allant au four et d'une feuille de cuisson. Pour ça, c'est pour éviter de tout et que ça se décolle bien, de tout saloper surtout et de nettoyer son four après. Voilà, vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi je mets toujours une feuille de papier cuisson. Et puis, on va finir par un moelleux au chocolat avec un cœur fondant. Donc ça, c'est aussi une pâtisserie qui est très simple aussi à réaliser. Pour ça, vous avez besoin de 150 grammes de chocolat noir, de 12 carrés de chocolat en plus, donc vous verrez pourquoi, et puis 80 g de beurre, 90 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de farine, du sucre glace, ça sera pour la déco à la sortie, et puis 4 œufs. Pour les côtés ustensiles, vous allez avoir besoin d'une casserole, de 2 saladiers, d'un fouet, d'une marise, de 10 à 12 cassolettes, donc avec papier cuisson, hein, on en a parlé déjà la semaine dernière, si mes mémoires est bonne avec les muffins,
oui.
Il me semble bien, ou alors des moules à muffins, voilà. Donc ça, c'est pour les ustensiles et les ingrédients. Alors, on va commencer par le fini mignon, parce qu'il y a quand même une préparation à faire, puisqu'on va le pré-cuire. Pour cela, vous allez prendre donc une poêle, tout simplement, et vous allez y rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et puis, on va faire dorer de tous les côtés. Alors, votre filet mignon, il est rond. Et ben, vous allez le tourner à peu près. Il faut qu'il cuise 5 minutes. Vous allez voir, ça va dorer. Et je fais ça à feu vif. Comme ça, ça dort, ça le saisit. Et quand on va le mettre dans la pâte feuilletée, il va garder ce moelleux puisqu'il va finir de cuire au four. Voilà, donc c'est histoire de le saisir, mais bien saisir 5 minutes, on va dire qu'à 4 côtés, vous le retournez 4 fois, grosso modo. Et ça sera 5 minutes en tout, hein. Ça ne sera pas non plus 5 minutes chaque côté, hein. Sinon vous n'avez pas fini et ça met 20 minutes et ça ne va pas le faire. Donc, et puis surtout, vous allez le saler et le poivré, donc en fin de cuisson. Hein, vous ne ferez que, alors c'est une petite pincée, hein, comme ça, je vous rappelle les proportions, c'est 2 pincées de sel pour 1 de poivre. Voilà, moi je pratique comme ça j'ai pas besoin de forcément de peser mon sel. Et puis, quand votre filet est bien doré partout, ben vous allez le sortir de la poêle et puis vous allez le laisser refroidir. Voilà. Donc ça, Nathalie, tu nous mets 5 minutes sur le compteur, ce qui est pas mal. Ouais, 5 minutes, ça va vite passer, hein, mais voilà, c'est l'histoire de le saisir, ce fini mignon. Pendant ce temps-là, vous allez donc vous pouvez très bien faire les deux en même temps, ça y a pas de problème. Pendant ce temps-là, pendant qu'il cuit tranquillement, vous allez prendre vos 2 courgettes et vos 2 carottes. Vous allez les laver bien évidemment. Et puis on va éplucher uniquement, donc enlever la peau de la carotte, hein, pour le peu qu'elle soit un petit peu plus. Bon, la carotte va dans la terre, donc il vaut mieux l'éplucher. Moi, je l'épluche. Il y en a qui l'épluchent pas. Moi, je l'épluche. Donc, et puis après, donc une fois que c'est épluché la carotte, on va pas éplucher la courgette parce qu'on va garder cette couleur verte qui est la peau de la courgette. Pour que ça soit plus joli dans l'assiette. Donc on va faire des fines lamelles. Donc l'idée c'est qu'au fur et à mesure que vous épluchez vous faites comme si vous l'épluchiez votre légume, vous allez le tourner à chaque fois que vous l'épluchez. Donc je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors on ne le tourne pas entièrement, mais vous le tournez petit à petit. De façon à ce que vous puissiez avoir des fines tranches déjà, et que vous alliez jusqu'au cœur. Si vous ne le tournez pas, vous allez avoir un côté où vous allez avoir le cœur, et l'autre côté, vous n'allez pas avoir le cœur. Donc le mieux, c'est de le tourner tout le temps. Et comme ça, vous allez avoir tout le temps le cœur qui va se développer. Alors le cœur, on ne va pas l'utiliser parce que bien souvent dans la courgette, c'est un petit peu plus, c'est avec des pépins. Donc on s'arrête aux pépins. Et puis pour la courgette, la carotte, vous allez voir, il y a un changement de couleur dans la carotte et c'est un petit peu plus dur. Donc là, vous arrêtez à ce moment-là. Et ça, vous pouvez le mettre dans un potage, c'est-à-dire que vous mettez dans l'eau avec un cube or. Et puis, vous faites cuire pendant 10-15 minutes. Et puis après, vous le mixez, ça vous fait un potage. Voilà. Donc bonne ça, idée. C'est... on jette rien, hein, très peu de choses dans la cuisine. Donc, une fois que vous avez fait ces lamelles, écoutez, c'est simple. On va mixer le persil et l'ail que l'on a... Donc, le persil, je vous fais pas un dessin comment on équeute le persil. Hein, je vous en ai déjà parlé avec notre fameux passoire. Et puis, l'ail, c'est pareil, on l'épluche, on l'émince. Donc, on la claque avec un un verre et puis ça nous permet de, comme elle est éclatée, de mieux l'émincer. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, dans ces cas-là, vous mettez le persil. Alors, c'est pas énormément de persil, mais il faut que ce soit un peu généreux. Et puis, les gousses d'ail, vous les mettez dans le mixeur. Et puis, une fois que c'est fini, votre haché persil ail, eh ben, vous allez le mélanger à vos tagliatelles de légumes que vous aurez fait. Et vous les mélangez vraiment. Comme ça, ça va s'imprégner. Le légume cru va s'imprégner du persil et puis de l'ail. Et après, vous n'aurez plus qu'à cuire. Donc, et vous mettrez deux pincées de sel et une pincée de poivre. Voilà. Et vous réservez jusqu'à la cuisson. Voilà au niveau des tagliatelles. Donc là, je pense que il est 43, si ma mémoire est bonne. Il nous reste combien de temps là pour Un peu plus d'une minute. Bah écoute, bien. On lance une petite pause en attendant les 3 minutes, Théo. Voilà, ben je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après cette page de pub et musicale.
Vous cherchez une idée de sortie originale en famille? Parc Babyland à Miland, 34 attractions. La Grande Roue, le Voltigeur, la Montée Fantastique, le Slalom, la Bûche Dansante, le Ptéranodon, la Coccinelle Géante, la Rivière Canadienne. Petits et grands pourront faire le plein de sensations au Parc Babyland à Miland, à 30 km au sud de Paris, ouvert tous les jours dans l'Essonne, au cœur de la forêt de Rougeau.
Parcbabyland.fr.
Le royaume des enfants et de la famille.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on était en train de pré-cuire notre mignon de porc. sort, et je vous rappelle que c'est un spécial fête des pères. Donc, notre mignon de porc, Nathalie, tu peux nous dire un petit peu ?
C'est bon, on a dépassé.
Même si vous avez dépassé, parce que vous l'avez, vos tagliatelles, vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas regardé, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va le saler et le poivrer, et on va le laisser refroidir, je parle du mignon, hein. Le laisser refroidir dans une assiette. Donc, c'est mieux de le sortir de la poêle. Alors, surtout, vous ne jetez pas les résidus qu'il peut y avoir, ou le gras, ou le jus qu'a pu rendre votre mignon. Vous laissez ça de côté et vous allez voir pourquoi après. Donc, pendant que... on va finir par... on va faire la pommade. Alors, la pommade, en fin de compte, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre mignon. Donc, pendant qu'il refroidit tranquillement, on va mélanger dans un bol 2 cuillères à café de crème épaisse et 3 cuillères à café de moutarde. Alors, peu importe la moutarde que vous prenez, si c'est de la forte parce que vous aimez bien le piquant, il faut savoir que ça ne se sentira pas, la moutarde forte, très forte, ne se sentira pas très forte à la cuisson. Elle va perdre ce petit piquant. Moi, j'aime bien la faire et j'ai déjà fait l'essai, vraiment. Et je trouvais que c'était un goût un peu sympa. C'est faire avec de la moutarde à l'ancienne. Vous savez, il y a des petits grains à l'intérieur. Et c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est meilleur. Voilà. Donc, vous pouvez faire ou de la moutarde à l'ancienne ou même d'une moutarde qui est un petit peu aromatisée. Mais attention, parce qu'on va mettre de l'ail et du persil haché dedans. Donc votre persil que vous avez haché tout à l'heure et que vous en avez mis un petit peu dans les tagliatelles, et ben vous en mettez aussi un petit peu donc dans cette pommade qu'on est en train de faire, donc de l'ail et puis du persil haché. Vous salez, et important, et vous poivrez, et vous allez mélanger tout ça. Pour que ça vienne une belle pommade un peu homogène et un peu lisse. Alors, vous allez me dire, ouais, mais lisse avec l'ail et le persil et les grains de moutarde. Non, ça ne sera pas lisse, bien évidemment, mais que le mélange soit homogène. Déjà, que la crème épaisse et la moutarde soient bien, bien, bien mélangées. Voilà, et quand vous avez fait ça, vous allez réserver parce que si vous mettez tout de suite votre filet mignon encore chaud dans votre pâte feuilletée, vous allez voir, ça va être une catastrophe pour le... Enfin, pas une catastrophe, mais ça, la chaleur du filet mignon sur la pâte feuilletée plus la crème, ça va dégouliner. Enfin, je parle en connaissance de cause par rapport à ça. Ben, pendant que ça refroidit et puis que vous fassiez un petit peu cette sauce qui est rapide hein, quand même, mais bon, si vous n'avez pas fait l'ail et le persil, c'est le moment. Je pense que Nathalie va nous raconter un petit peu l'histoire du filet mignon. Et vous allez voir, c'est étonnant.
Oui. Parce que le filet mignon désigne une pièce de viande de porc ou de bœuf, et plus rarement de chevreuil, correspondant au muscle iliopsoas, je l'ai bien dit, oui, ouais. Composé des muscles iliaques et grand psoas, entre lesquels chemine le nerf fémoral. C'est une des parties les plus tendres et souvent une des plus chères. Ces muscles se trouvent le long des premières vertèbres lombaires. L'équivalent dans le bœuf n'utilise pas en général le qualitatif de mignon. Le filet est effectivement un morceau connu pour sa tendreté, mais également son manque de goût. À l'époque où les Halles de Paris étaient encore le marché de la ville, de nombreux restaurants du quartier servaient, et certains servent encore, le bœuf à la ficelle. C'est un rôti de filet trempé dans un bouillon de légumes et d'épices au bout d'une ficelle, d'où son nom. Avec le même temps de cuisson, 10 minutes par livre. Alors une livre, tu peux nous rappeler ce que c'est
Non.
Non,
j'ai jamais su.
Je crois que c'est 500 grammes, il me semble.
Il me semble que c'est ça. Mais c'est à l'ancienne, ça.
C'est ça.
Maman parle encore comme ça.
Les anciens parlent comme ça.
Et à chaque fois, je me plante. Donc, je ne serai pas dans la certitude.
Je crois que moi, j'avais demandé, parce qu'on me disait, va chercher une livre de cerises, par exemple, et je ne savais pas ce que c'était. C'est 500 grammes à vérifier, mais il me semble bien à 90%. Donc, le temps de cuisson, donc 10 minutes par livre, que le rôti traditionnel. L'habitude a été prise aux États-Unis d'employer l'expression filet mignon et ils le disent en français, ça doit être très mignon, pour désigner le filet de bœuf, voire tout steak tendre. Le consommateur américain est dès lors pris au dépourvu dans les pays européens où il croit reconnaître sur une carte un filet mignon de bœuf et où on lui sert en général du porc, donc de la viande blanche. Inversement, le consommateur européen qui commande un filet mignon dans une zone de culture nord-américaine peut être surpris de se voir servir du bœuf.
Voilà. C'est pour ça que je disais que c'était surprenant. Alors que normalement, le filet mignon, enfin en France, après les États-Unis font ce qu'ils veulent, mais en France, le filet mignon, c'est vraiment propre au porc.
Oui.
Ou au veau. Mais je ne suis pas sûre que... Mais c'est une viande blanche. Oui. Donc voilà, et le filet de bœuf, c'est du filet de bœuf.
Bah oui.
C'est pas du tout la même chose. Hein, les Américains, il faut qu'ils se mettent sur la cuisine française.
Bah, ils sont très consommateurs de viande rouge, hein, les Américains.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc ça, il faut le savoir. Hein. C'est bien. Mais écoute, merci pour cette petite différence. Alors, on parle de cette différence de goût, puisque la viande rouge n'est pas du tout la même texture que la viande de bœuf, de porc, de blanche. Et c'est surtout le cuisson.
Oui.
Parce que là, tu as parlé tout à l'heure de cuisson. Mais il faut savoir qu'une une viande de bœuf, tout dépend si on l'aime saignante, à point. Mais aux États-Unis, eux, c'est directement bien cuit, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le saignant et le à point. Alors que, donc on va avoir le filet, c'est une horreur de manger un filet de bœuf bien cuit. Moi, je suis désolée, c'est une honte. Alors, je vois Nathalie.
Sacrilège.
Voilà, j'espère que tu ne manges pas de la viande de bœuf bien cuite, parce qu'on n'a plus de copines.
Quand c'est en entrecôte ou quand c'est en steak, j'aime bien cuit.
Ah.
Parce que depuis toute petite, je ne suis pas très viande rouge. Par contre, c'est vrai qu'en rump steak, machin, j'aime bien effectivement quand c'est tendre et quand c'est...
Ah, c'est marrant,
voilà.
Ça.
Ouais, c'est marrant, hein.
Ouais, c'est
parce que la cuisson n'est pas la même au four déjà et au feu.
Alors on est d'accord, hein, sur une côte de bœuf au four ou même au barbecue. Hein.
Ouais.
Et puis tout dépend du poids qu'elle fait. Alors qu'un porc, il faudra vraiment que ça soit bien cuit à cœur.
Ouais.
Et il n'y a pas de blanc, de rose, que ça soit rosé, c'est pas bon. C'est, voilà, c'est quand vous avez un mignon de porc, c'est pour ça que vous allez voir, on va avoir une cuisson de 40 minutes quand même. Donc, bon, voilà, c'est pour cette parenthèse. Je pense que notre mignon de porc, il est refroidi, hein, et au moins il est tiède. Et là, on va pouvoir déplier notre feuille de notre pâte à feuilleter. Alors, si elle est ronde, pas d'inquiétude, hein, vous ne prenez pas la tête à faire un carré. On va déposer au milieu. Alors, bien centré, vous allez voir que pour la mise en portefeuille de ce mignon de porc, on va avoir besoin que ça soit bien centré. Bon, c'est pas non plus prendre un centimètre pour faire la différence. Donc, on va déposer sur notre mignon de porc au milieu de notre pâte feuilletée. Et puis, on va la badigeonner copieusement de la préparation moutarde, persil, ail que l'on a préparée. Et pour ça, pour plus de facilité, prenez une maryse. Parce que déjà, ça va racler votre bord de bol et tout va y passer. Et puis, ça va vous permettre de l'étaler sur tout le mignon de porc. Alors, vous pouvez le faire entier. Et la pratique est la même, hein, entier. Ou moi, j'aime bien le faire par personne. Voilà, en petite quantité. Donc, du coup, on coupe la pâte en plusieurs morceaux. Mais c'est mieux d'en avoir une carrée dans ces cas-là. Mmh. Parce que dans une ronde, mettre plusieurs tailles, c'est compliqué. Voilà, donc vous pouvez le faire aussi bien en individuel que en entier. Voilà, moi, c'est l'un ou l'autre, comme on veut. Donc là, on va rester sur de l'entier. Donc on va bien la mettre au milieu. On a bien mis toute la préparation moutarde, persil, ail dessus. Et on va couper les bouts. Alors, comment vous donner l'image de couper les bouts? Vous voyez un petit peu comment on fait un paquet cadeau. On l'emballe, et ben il y a toujours une surépaisseur au bout. Et ben, en fin de compte, c'est comme un paquet cadeau. Vous allez vraiment couper dans les bouts du mignon de chaque côté et rabattre en fin de compte la pâte qu'il y a en plus. On la coupe pas, on la met avec, on la rabat sur le fini mignon. Voilà, donc comme un paquet cadeau. Vous faites exactement pareil. Alors, pas besoin que ça soit droit, machin, patin, couffin, puisque de toute manière, après, plus ça sera pas du tout rectiligne, plus ce sera sympa, votre truc. Voilà, mais bon, faut pas non plus que ça soit le souk et que vous mettiez... Vous pouvez aussi aplatir les bords. Mais si vous aplatissez les bords, vous allez avoir une surépaisseur. Merci Nathalie. Heureusement qu'elle est là, Nathalie, pour me reprendre. Une surépaisseur et ça va pas être forcément sympa et sans viande à l'intérieur. Vous pouvez aussi pincer, puisque si votre mignon de porc il est plus long, vous pouvez aussi pincer les bords de façon. L'idée c'est que ça soit imperméable et que votre préparation qui est à l'intérieur quand elle va cuire ne sorte pas de ce pâté en croûte, enfin de ce mignon de porc en croûte. Alors, pour souder, une petite astuce, souder les deux pattes qui vont se rejoindre, hein, donc même s'il y a une superposition, vous mettez de l'eau dessus, sur la pâte à souder, vous mettez de l'eau et vous allez voir que ça va... alors, c'est pas... Vous mettez avec votre doigt hein, ou avec un pinceau, c'est comme une colle. L'eau sur la pâte, ça va être comme une colle. Vous le mettez après, vous appuyez avec votre doigt pour faire bien la soudure et puis votre plat il est fait. Et votre soudure centrale, on va la mettre sur on la met pas au-dessus, on la met en dessous. Donc il y a des préparations et imaginez donner une image de la préparation, c'est compliqué quand même. Hein. Donc vous mettez ça sur une plaque avec la feuille de cuisson. Donc moi j'aime bien comme ma soudure est au-dessus, je pose ma feuille de cuisson sur ma soudure et je retourne avec ma feuille de cuisson pour le mettre sur ma plaque. Voilà, tout simplement. Et après, vous allez badigeonner avec un pinceau de jaune d'œuf. Donc le blanc, comme d'habitude, hein, vous le réservez, vous le mettez au congélateur. Donc depuis le début des émissions, vous allez avoir plein de blanc d'œuf. Bah, c'est super parce que vous allez pouvoir faire des petites meringues pour le dessert, par exemple, pour le dessert de maintenant qu'on va préparer. Sauf qu'il y a quand même une heure de cuisson au niveau des meringues. Donc là, ça sera une autre chose. Ou faire une glace. Et ça, on reverra comment faire un sorbet. Mm. Parce qu'on va arriver à avoir des fruits qui vont être sans sas, puisqu'on a du soleil. Donc avant qu'ils pourrissent sur les étalages, c'est bien d'en faire des sorbets. Vous allez voir, c'est très très simple. Oui. Ben, peut-être que je prévoirai sur les prochaines semaines un sorbet. Vous allez voir, c'est pas très très compliqué. Alors, je reviens. Donc, on a posé notre mignon de porc avec la pâte feuilletée sur la plaque. On badigeonne bien de jaune d'œuf. Et puis, moi, j'aime bien le rayer un petit peu avec la fourchette. Avec une fourchette. Et de façon à avoir des dessins dessus. Donc ça, c'est juste pour la déco, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais voilà. Et on va le faire cuire 40 minutes à 80, entre 180 degrés et 200 degrés. Donc ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire qu'on n'aura pas fini la cuisson quand on aura... Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave puisque de toute manière... On aura d'autres choses à faire réchauffer et ça vous permettra de manger l'entrée avant le plat, bien évidemment. Voilà, donc ça, on est parti pour 40 minutes. Donc ça nous tirera jusqu'à la fin de l'émission et voire beaucoup plus. Bien, on va finir à prendre donc la poêle qu'on a utilisée pour le mignon. On va la reprendre. Excusez-moi. Donc là, je sais que Théo, ça lui souffle dans les oreilles, mais là, je ne pouvais pas faire autrement. Je suis désolée, Théo. Voilà, donc on va prendre la poêle dans laquelle on a comment cuit notre mignon. Et le jus qu'il y a dedans, on va le garder, puisqu'on va cuire les tagliatelles dedans. Et vous allez voir, on rajoute peut-être une petite noisette, une bonne noisette de beurre dedans. On va attendre que ça frémisse tout doucement. Et là, votre préparation de tagliatelle avec l'ail et le persil à feu moyen. Vos tagliatelles, en 5 minutes, ça va être cuit. Hein, puisqu'on cherche à avoir des tagliatelles al dente. Hein, donc, si vous cuisez trop, étant donné que c'est très très fin, puisque c'est épluché avec votre économe, ça va aller très très vite. Donc, 5 minutes de cuisson en remuant avec une fourchette ou deux fourchettes pour que ça évite que ça accroche. Mais bon, en général, dans une poêle, ça n'accroche pas. Vous faites tourner vos tagliatelles de façon à ce qu'elles les faire revenir tout simplement. Et puis, et les laisser croquantes. Alors, c'est juste qu'elles brunissent un petit peu, hein, donc elles dorent un petit peu. Et puis, une fois que ces 5 minutes sont faites, eh bien, on va les mettre dans un plat qui servira pour le service. Et on va... moi, je mettrai un papier d'aluminium dessus, de façon à ce que 10 minutes avant la fin de la cuisson de votre mignon, vous les mettez avec votre mignon, comme ça, ça réchauffe en même temps que votre mignon finisse de cuire. Et vous mangez les tagliatelles un petit peu cuites, qui vont finir de cuire en fin de compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elles soient croquantes. Voilà, c'est ça le but. Donc Nathalie, tu as mis 5 minutes ?
Ok.
Ouais ?
Ouais.
Voilà, ce qui nous laisse le temps de cuire, de continuer avec nos œufs mimosa. Donc on va passer sur l'entrée. Alors, pour les œufs mimosa, on va prendre donc une casserole et on va cuire nos 8 œufs. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé de 9.
Oui.
Et là, c'est 8 œufs. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, les 8 œufs que l'on va prendre, on va les mettre dans l'eau bouillante. Donc une fois que votre eau elle est portée à ébullition, vous allez les mettre dans votre casserole d'eau bouillante. Et je vous rappelle que c'est des œufs durs qu'on cherche à faire, donc par la règle de 3, 6, 9, donc c'est 9 minutes. Donc on mettra 9 minutes au chrono au niveau des œufs une fois que l'eau est en ébullition. Voilà, pendant que ce temps, le neuvième œuf, on va l'utiliser pour la mayo, bien évidemment. Donc, on va faire une vraie mayo. Pour ça, vous prenez, ou vous faites avec un fouet, et là, force et courage, ou alors vous le faites avec un batteur plutôt électrique. Donc, on va prendre un jaune d'œuf. Donc là, ça vous fait deuxième blanc qu'on garde, qu'on mettra au congélateur ou pas, comme vous voulez. Donc le jaune d'œuf, vous allez mélanger avec une cuillère de moutarde. Donc normal, hein, la moutarde, pas l'ancienne moutarde. Et puis un peu de sel et de poivre. Donc vous mélangez bien au batteur, vous faites attention aux éclaboussures. Et puis l'huile, on ne peut pas la mesurer parce que tout dépend de ce que vous voulez en mayo et qu'elle prenne, le temps qu'elle prenne. Donc si vous n'en voulez pas beaucoup, vous ne mettez pas beaucoup d'huile. Mais là, il faut quand même que votre mayo double de moitié, voire de trois quarts. Hein, puisqu'on veut quand même quelque chose de... C'est des œufs mimosa et ça soit moins sec surtout. Donc on va ajouter progressivement l'huile donc dans votre batteur électrique. Hein, donc vous faites attention aux éclaboussures. Ne soulevez surtout pas votre fouet électrique parce que sinon vous allez avoir les éclaboussures. Je vous parle en connaissance de cause. Donc vous allez me dire, ouais, c'est Miss Catastrophe parce qu'elle raconte pas mal de trucs qu'elle a fait. Ben oui, mais depuis le temps que je cuisine et ça fait Oula, je tairai le nombre d'années que je cuisine. Donc, il m'est arrivé des bricoles. Bon, il m'en arrive encore, hein, faut pas rêver, parce que je fais des essais et des fois, c'est pas génial. Donc, progressivement, vous rajoutez votre huile et vous continuez à battre avec votre fouet électrique. Et puis, ben, jusqu'à temps que vous éteigniez une maillot un petit peu ferme, même beaucoup ferme, et puis vraiment que ça fasse la moitié de votre bol, voire les trois quarts, hein, voilà. Pendant que vous battez votre maillot pour les œufs mimosa, je pense que Nathalie, tu as peut-être quelque chose sur cette recette justement, les œufs mimosa.
Oui, alors les œufs mimosa, au Moyen-Âge, l'anonyme andalou, donc c'est au XIIIe siècle qui donne deux recettes d'œufs farcis, mais elles sont loin de la définition, et grains jaunes, mimosa et persil vert. Alors, œufs farcis, demi-œufs durs farcis de leur jaune pilé avec graines de coriandre, jus d'oignon, garum, de l'huile d'olive, puis attachés ensemble, saupoudrés de poivre noir. Et même recette épicée à la cannelle. Tiens, badigeonnés de safran et frits, servis sous une sauce au lard, je pense, et à la cannelle. Au XVe siècle, un livre de recettes en bas allemand parle de... Alors, attention, je n'ai pas fait allemand en deuxième langue. De Halve Egegere Degevule Sim.
Ce qui veut dire demi-œuf farci.
Voilà, c'est tellement plus simple en français, en fait. Pourquoi s'embêter ? Au XVIIe siècle, donc en 1662, le cuisinier méthodique fait une farce de cochon aux œufs durs farcis. Les œufs farcis sont au XIXe siècle un entremets chaud. Ceux d'Archambault, en 1825, sont des œufs reconstitués, remplis d'une farce à base de leur jaune cuit et de panade, passés au four et servis chaud. Dans ceux de Catherine de Bonnechère, en 1895, la panade est remplacée par du riz. L'œuf mimosa, servi froid, est une création de la cuisine du XXe siècle. De même, les deviled eggs, Elgs anglophones, l'anglais c'est pas mon fort, les œufs mimosa apparaissent dans les archives de la presse francophone le 9 juillet 1911 dans un article de l'Écho Nogentais signé Cousine Louise qui sera repris en août par de nombreux journaux régionaux. L'utilisation de sauce blanche ou teintée à la tomate comme garniture ou en mélange dans un plat se rencontre encore en 1922. Plus tardivement encore, en 1937, on trouve les œufs mimosa farcis de pâté de foie. Tiens, curieusement, c'est en 1912 qu'apparaît dans la presse française l'œuf mayonnaise l'œuf mimosa est une version raffinée. Et la recette qu'en donne le Petit Provençal en 1924 ressemble beaucoup à l'œuf mimosa avec le jaune émietté de présentation. Depuis 1925, la recette canonique mayonnaise, crevette, finition jaune en mimosa et persil est fixée. Rapidement, la recette adopte une forme classique, œuf dur coupé en deux, rempli d'une farce à base de mayonnaise, souvent uniquement de mayonnaise, parfois avec des crevettes, saupoudrées de jaune avec persil et cornichons, le tout servi froid. En 1933, au Pays Basque, est publiée une variante où la mayonnaise contient des moules. En 1936, le Matin utilise des langoustines. Alors, ils disent le homard peut les remplacer, oui, c'est pas le même prix. En 1937, la Bourgogne républicaine, des queues d'écrevisse, puis des anchois ou du saumon en 1939. Du crabe en 1940. Le point commun de toutes ces variantes est le demi-œuf coupé dans le sens de la longueur, la mayonnaise et la finition au jaune d'œuf écrasé et la multiplication des garnitures de poissons et crustacés rappelle des œufs farcis scandinaves et russes à la crème sur crevettes, œufs de saumon, œufs de truite. C'est cette finition à qui l'œuf mimosa doit son nom et de nos jours souvent oublié au profit d'un simple mélange de jaune à la mayonnaise de la farce.
C'est excellent quand même. Ouais. C'est excellent. Vous voyez comme quoi, et là, ce soir, on fait des œufs mimosa au thon, dont on n'a pas parlé dans l'histoire quand même. Oui. On a mis plein de poissons, mais le thon, c'est
un
bon.
C'est un poisson.
Oui. Oui, oui, mais bon, c'est bon et c'est peu cher. Parce oui. Que le homard, voilà, ou même les crevisses.
C'est ça.
C'est un petit peu cher, je
un
trouve.
Un petit peu.
Voilà, après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais moi, ça m'embêterait de faire des œufs mayonnaise. à la queue de homard. Franchement, ça m'embêterait. Je préfère manger la queue de homard comme ça. Bien, alors, notre maillot, je pense qu'elle est montée. Nos tagliatelles, elles sont croquantes, cuites. On les a mis dans un four à nan au four. Et dans un plat de préparation, c'est mieux. Style plat à gratin, vous ne prenez pas non plus la tête. Et on les a recouverts de papier aluminium. Et puis nos œufs vont être cuits et on va les plonger dans l'eau froide de façon à pouvoir les écailler. Donc si je regarde bien mon chrono, on est bon. Donc je vous propose que pendant que vous écaillez vos œufs sans vous brûler, c'est pour ça qu'on les plonge dans l'eau froide et pour arrêter la cuisson, et ben je vous propose une pause musicale. À tout de suite.
Écoute bien, c'est une nouveauté Infine Radio.
I see you through the fumes, let me in, I'll fall for you. Going manic for our story, baby. I feel you slipping through like water through the roof. Is it only about some pleasure, baby? See you through the lights and I won't let you fall. All the way around, I know you'll let me go. Even if it's right for you, don't leave me alone. I get the feeling you're not involved. She just wanna feel me, baby. She just feels like ice cubes on some whiskey. She just wanna party, party with me. But I want more than that, I wanna be her man. Feel me, baby. She just feels like ice cubes on some whiskey. She just wanna party, party with me. But I want more than that, I wanna be her man. I like what I see, do you like what you see too? Is it really just about our bodies? The party's over soon, 2 a.m. is deja vu. Just waiting, baby. See you through the lights and I won't let you fall. All the way around, I know you'll let me go. Even if it's right for you, don't leave me alone, baby. I get the feeling you're not involved. She just wanna feel me, baby. She just feels like ice cubes on some whiskey. Wanna party, party with me. But I want more than that, I wanna be her man. She just wanna feel me, baby. She just feels like ice cubes on some whiskey. She just wanna party, party with me. But I want more than that, I wanna be her man. On some whiskey. She just wanna party, party with me. But I want more than that, I wanna be her man.
Jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici. Je pense que vos œufs sont écaillés, donc c'est parfait. On va émietter le thon. Alors, bien évidemment, on a ouvert la boîte, on l'a égoutté parce qu'on ne garde pas le jus. Si vous avez des chats, Eh ben, donnez le jus aux chats, ils avaient, et vous allez voir, ils en raffolent. Ils sont fous quand, quand il y a le jus de la boîte de thon. Et puis, donc, on les égoutte bien et on va l'émietter dans la mayo. Donc ça, c'est une partie des œufs mimosa. Et puis, vos œufs, on va les couper en deux. Et on va récupérer le jaune. Donc, et le jaune, on va l'écraser et à la fourchette. Donc, vous voyez, les œufs mimosa, la mayo, le thon. Et puis, on va garder, vous en gardez un petit peu, vous gardez sur les 8 œufs que vous avez mis en œuf dur. Vous en gardez, allez, on va dire un ou deux pour la déco. Enfin, un, ça suffira pour la déco. Le reste, vous le mélangez bien à la mayo et puis au thon qui est émietté. Vous mélangez bien. Et puis là, après, ben, vous allez mettre votre blanc d'œuf, il est creux. Donc, ben, du coup, vous allez mettre vos œufs. Ah non, on a dit qu'on le mettait dans une virine. Donc, du coup, non. Les blancs, excusez-moi, parce que je mélange mes deux recettes que je fais. Donc, excusez-moi. Donc, comme on le met dans une virine, on va hacher tous les blancs assez grossièrement avec un couteau et puis on va réserver. Maintenant, on va faire place au dressage. Donc, pour le dressage, alors moi j'aime bien mettre au fond des petites tomates, ça donne de la couleur. Donc, pour la verrine, vous mettez au fond de votre verrine des tomates coupées en dés, hein, tout gentiment. Enfin, après, tout dépend de la grosseur de votre verrine, c'est toujours pareil, mais plus c'est fin, meilleur c'est. Et puis vous allez vos blancs d'œufs que vous avez coupés grossièrement, et ben vous les mettez par-dessus les tomates. Et enfin, vous mettez votre mélange mayo, thon, œuf, jaune d'œuf qui sont émiettés. Et puis vous allez finir par saupoudrer votre verrine qui est faite par le jaune d'œuf. Donc ça va ressortir avec la préparation. Et puis vous finissez avec une petite pointe de persil si vous souhaitez. Et vous mettez bien au frais. Ça c'est important parce que ça se mange très frais. Donc voilà, votre entrée, elle est prête. Vous voyez, c'est pas très compliqué et c'est toujours très sympa d'avoir une verrine à table. Je trouve que c'est plus joli et puis bon, c'est la fête des pères, donc on peut mettre les petits plats dans les grands plats. Bien, Nathalie, où est-ce qu'on en est au niveau de notre fini mignon ?
Eh bien, déjà 18 minutes de passé.
Eh bien, écoutez, on va pouvoir continuer et on va, ça nous laisse le temps, largement le temps de préparer notre moelleux. Alors, notre moelleux, pour ça, on va prendre une casserole, donc une casserole d'eau, et on va mettre un saladier par-dessus. C'est ce qu'on appelle un bain-marie. Donc, il faut vraiment que l'eau arrive à fleur du saladier. Ne choisissez pas un saladier trop petit ou une casserole trop grande. Hein. Donc, il faut vraiment que ça soit calé et que vous mettiez de l'eau à ras-bord du saladier. Et puis, dedans, vous allez mettre vos 80 g de beurre, vos 150 g de chocolat. Donc, j'ai dit 150 g. Vous ne mettez pas les 12 carrés qu'on va garder sur le côté. Et puis, vous allez lisser un petit peu et vous allez faire fondre un petit peu tout ça. Donc, normalement, au bain-marie, ça va relativement vite. Si vous voyez que vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez mettre au micro-ondes. Mais vous faites attention parce que le micro-ondes, si vous le mettez trop fort, il va cuire votre beurre et votre chocolat et après, vous ne pourrez pas le lisser. C'est pour ça que le bain-marie, ça peut être sympa. Si vous avez coupé en petits morceaux votre beurre et en petits morceaux votre chocolat, ça va fondre assez rapidement. Donc, vous lissez bien ce mélange. Et puis pendant que ça fond, et bien dans un saladier, on va fouetter 4 œufs avec le sucre. Donc vous vous souvenez que les 4 œufs Et le sucre, et ces 90 grammes de sucre que l'on va mettre dedans, il faut que ça blanchisse un petit peu. Hein. Donc là, avec le fouet, bon, si vous avez un batteur à portée de main, ça ira plus vite. Mais ça ne sert à rien de mélanger voilà, trop fort. On cherche juste à lier l'œuf et le sucre. Et puis, on va y rajouter un petit peu la farine. Donc pour ça, la farine, je ne sais plus combien de poids j'avais mis en farine, 2 cuillères à café, à soupe de farine, vous voyez, donc très peu de farine. Et puis votre chocolat, ben, il serait quand il est fondu, et là je pense qu'il y est, si vous avez mis en amont votre casserole bouillante, vous pouvez utiliser l'eau de vos œufs, hein, pour faire le bain-marie, hein, parce que ça n'a pas trempé dedans, donc vous pouvez utiliser votre eau, donc elle est déjà chaude. Voilà, donc le chocolat il est fondu, on va le rajouter à la préparation qu'on a fait, donc avec les œufs, le sucre et la farine. Voilà, donc une fois que tout est bien mélangé, bien lissé, vous allez pouvoir remplir à la moitié vos moules de muffins ou vos cassolettes. Donc je dis bien la moitié parce que une fois que vous avez bien rempli la moitié, donc comme on n'a pas mis de levure chimique, ça ne va pas gonfler. Donc on peut les remplir jusqu'en haut. Donc à la moitié de votre moule, vous mettez un carré, nos fameux carrés de chocolat qu'on a mis de côté, nos 12 carrés de chocolat. Donc vous mettez 2 carrés de chocolat par exemple, tout dépend de la grosseur de votre moule à muffin. Vous pouvez mettre 2 carrés et vous recouvrez tout de suite du reste de la préparation. Et vous allez mettre vous allez le réserver. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on va les cuire. En fin de compte, l'idée c'est de les cuire 10 minutes avant de les manger. Puisque le moelleux, vous allez comprendre dans l'histoire, le moelleux, en fin de compte, se cuit très rapidement, surtout sur une... Et qu'on veut garder cette espèce de moelleux. Et ça n'a pas la même cuisson que les autres ingrédients qu'on a mis au four, genre le mignon de porc n'a pas la même cuisson. Le mignon de porc, il est à 180, et les moelleux, on va les cuire à 240. Donc il faut vraiment que ça soit saisi tout de suite. Donc, vous allez voir, je vais vous dire comment on fait et ça se goupille bien dans le repas. Alors, pendant que vous finissez un petit peu tout ça, Nathalie, tu as une histoire sur la fameuse histoire sur le moelleux.
Oui,
vous allez voir.
Sur le moelleux au chocolat, puisque c'est une recette particulière de gâteau au chocolat. Alors, il ne doit pas être confondu avec le fondant au chocolat qui, lui, contient plus d'œufs et moins de farine. Et du fait de sa composition, un moelleux au chocolat est un peu sec s'il est trop cuit. Si au contraire on procède à une cuisson rapide pour préserver un cœur coulant tout en ayant une croûte croustillante, c'est alors un mi-cuit. Alors bien qu'il se décline sous différentes formes, selon la recette précise, le moelleux au chocolat est souvent préparé en portions individuelles, ce qu'on fait ce soir. Le moelleux au chocolat peut contenir différents ingrédients comme du chocolat, du beurre, de la farine, du sucre et des œufs. À la fin de la cuisson, le moelleux au chocolat doit être légèrement tremblotant. Si on y plante la lame d'un couteau, elle doit ressortir légèrement humide. On peut associer ce gâteau avec de nombreux accompagnements. Les plus populaires seraient la glace à la vanille. Grâce à la balance entre l'amertume du chocolat noir et le goût sucré de la vanille, ou encore avec des fruits rouges et leur acidité. Donc depuis quelques années, le moelleux au chocolat a envahi nos tables et il est devenu si populaire qu'on s'imagine qu'il a toujours existé. Et son origine est bien souvent méconnue. Et pourtant, c'est par l'un de nos grands chefs qu'il a été inventé. Le moelleux au chocolat est en effet l'œuvre de Michel Bras, qui est dans sa cuisine de l'Aubrac, a passé 2 années à peaufiner cette recette. La recette d'origine se basait sur un cœur de ganache congelé, puis intégré dans une pâte à biscuits. Depuis 1981, date de la naissance du moelleux, la recette s'est simplifiée et le principe de 2 pâtes, 2 températures est maintenant souvent délaissé au profit d'une seule pâte à biscuits à forte teneur en chocolat. Même simplifiée, la maîtrise du moelleux au chocolat et surtout de sa cuisson n'en reste pas moins délicate.
Alors, merci, vous avez vu la différence entre le moelleux et le fondant. Question du maître du temps. A-t-on le temps de donner une autre information, par exemple, sur le bain-marie, ou pas ? Tu me
oui,
dis.
Oui, on peut, même si on dépasse un chouïa, on va le faire.
Voilà, et bien, donc, tu nous dis un petit peu l'origine
du bain-marie.
Du bain-marie ?
Ouais, parce qu'on a parlé du bain-marie tout à l'heure, mais pour son origine, hein, en cuisine, le bain-marie, ça désigne un liquide chaud servant au chauffage d'un récipient contenant un mets ou une préparation à chauffer. Par extension, le bain-marie désigne également le récipient contenant le liquide chaud. On appelle cuisson au bain-marie la cuisson utilisant le bain-marie. Le bain-marie contient un liquide, eau ou huile par exemple, alors que le récipient au-dessus contient le mets ou la préparation, comme ce soir le chocolat. Et le beurre. Cette technique de chauffage présente l'avantage d'éviter un apport de chaleur trop brutal et permet de contrôler le chauffage en évitant à peu près tout risque de calcination, même partielle. L'huile est utilisée lorsqu'il faut atteindre des températures supérieures à 100 degrés. Ce dispositif est également utilisé en chimie, surtout en chimie organique, lors de synthèses organiques, en biochimie et en biologie moléculaire. Le terme de bain d'eau ou d'huile, thermostaté, est préférable. Selon le chimiste allemand, ou encore l'Allemagne, Lippmann, le médecin et mathématicien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate de Chios, et le naturaliste Théophaste du 4e siècle avant Jésus-Christ ont les premiers décrit la technique du bain-marie. On attribue la vulgarisation du bain-marie à Albert le Grand. Ainsi, le nom de bain-marie proviendrait du vocabulaire alchimique antique, parlant alors de bain de Marie, en référence à l'alchimiste Marie la Juive, au 3e siècle avant Jésus-Christ, à qui l'on attribue également l'origine de certains ustensiles de laboratoire et l'emploi de la technique comme outil. La première attestation en latin « Balnum Mariae » date du début du 14e siècle.
Voilà, ben, c'est pas mal, hein ?
Ouais.
C'est pas mal. Moi, je trouve que le bain-marie, c'est pas d'aujourd'hui, quand même. Hein ? C'est pas d'aujourd'hui. Donc, c'est bien. C'est bien. Merci, Nathalie, pour ces infos. Alors, je reviens. Nos mimosas sont au frais. Donc, notre mignon est au four. Nos tagliatelles sont en attente de réchauffer. Donc, je vous rappelle que ça sera 10 minutes avant la fin. Donc, d'ici, je pense, 2 minutes, c'est ça, hein ? C'est d'ici 3 minutes, vous pourrez les mettre avec votre fini mignon.
Oui, d'ici 3 minutes.
Nous avons encore à faire cuire les moelleux et c'est normal parce que quand ils sortiront, vous allez sortir en fin de compte le mignon de porc et les tagliatelles pour les manger, vous allez augmenter votre four à 240 degrés thermostat, c'est thermostat 8. Et puis vous allez mettre à cuire vos moelleux 10 minutes. À four très chaud, donc 240. Une fois, juste avant de les servir, vos moelleux. Donc, je m'exprime bien, hein, on mange là à fin de mission, vous pourrez manger tranquillement vos œufs mimosa, vos verrines d'œufs mimosa. Vous allez sortir votre mignon et vos tagliatelles, et auquel cas, à la place des tagliatelles et du mignon de porc, on augmente le four à 240 degrés et on met nos moelleux. C'est important de les mettre à four très chaud, de façon à ce qu'ils soient saisis et qu'au bout de 10 minutes, ils sortent tremblants. D'où l'intérêt de tremblotant. Tout à l'heure, en parlais. Donc, et puis pour les servir, vous allez les servir dès la sortie du four. Alors c'est un dessert qui se fait vraiment rapidement et qui se sert tout de suite. Alors s'ils sont dans les moules à muffins, vous ne pourrez pas les démouler. Vous ne pourrez pas les démouler parce que ça sera tremblant.
Ouais.
Alors que si c'est dans la cassolette, vous pouvez très bien les mettre, les laisser dans la cassolette. Moi, je trouve que la cassolette est mignonne. Et puis, vous les saupoudrez de sucre glace dessus. Vous les mettez dans une assiette, vous saupoudrez de sucre glace. Et puis, vous allez l'accompagner, comme le disait Nathalie, ben, d'une glace vanille. Voilà. Et en fin de compte, le moelleux va être autour, mais vous aurez une partie fondante qui est les deux carrés de chocolat qui auront fondu, mais pas en même temps, puisque on va avoir un cœur fondant. Mm. Et comme ça n'a pas de farine ni d'œuf, ça ne va pas cuire de la même façon. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le moelleux au cœur fondant.
Du coup, il se mange tout de suite, on ne peut pas le manger le lendemain.
Non.
Ok.
Non. Après, vous pouvez, mais voilà, ça va être complètement différent. Bien. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'il est temps pour vous de préparer une jolie table parce qu'on a tout fini. Et puis, vous allez pouvoir manger, déguster avec votre famille et vos amis et faire la fête pour la fête des papas ou pas. Hein, de toute manière, préparer ce mets à ces différents mets. Voilà. Je vous rappelle, il nous reste à dire quoi ? Ah oui, une annonce importante. Mis à part qu'on vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée, on se retrouve le mardi 28, car la semaine prochaine, ça sera la fête de la musique.
Oui.
Et comme on ne souhaitait pas vous priver de cette belle fête, eh ben on a fait sauter l'émission. Voilà, parce que je pense que...
Exceptionnellement.
Exceptionnellement, voilà. Voilà, on va tous aller fêter la fête de la musique sur Saint-Tri, ça va être sympa, ou ailleurs, comme on veut. Voilà, on vous embrasse, surtout les papas, et puis prenez soin de vous, on vous dit dans deux semaines,
ouais.
Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bonne soirée.
Bonne soirée.